Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'impression que le monde était en train d'être plus en plus plongé dans les ténèbres. Mais c'est l'impression que ça me donne quand je lis les nouvelles, quand je vois ce qui se passe autour de moi, les guerres, les maladies, l'indifférence face à la souffrance, les catastrophes naturelles, le manque de perspective d'avenir. La perte de sens, les conflits dans les couples et dans les familles. Et bon, on a la chance quand même de vivre en Suisse où on est dans un petit havre de paix, de tranquillité. Mais si on réfléchit à ce qui se passe aujourd'hui en Suisse et qui est tout à fait acceptable, et qu'on se replonge 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière, il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont la norme et qui auraient été inacceptables il y a 10 ou 20 ans. Et aujourd'hui, on ne s'en souvient même plus que ça aurait été inacceptable. Et j'ai une bonne nouvelle ce matin. C'est que dans ces ténèbres qui vont grandissant, il y a des oasis, des villes-refuges, des lieux de lumière et de paix. Ces lieux sont peuplés d'irréductibles chrétiens qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Une de ces villes, un de ces bastions, eh bien, est ici. On a la chance que Dieu en ait placé un ici. Je ne parle pas du bâtiment, vous l'aurez compris, mais je parle de nous, tous les chrétiens, qui sommes appelés à vivre une communauté du bien, une communauté qui parle de Dieu, une communauté de l'amour. Alors, la Bible ne dit pas que c'est en raison de la supériorité des chrétiens que Dieu leur confie cette mission, mais bien de la supériorité de celui qui habite dans les chrétiens, la supériorité de Christ. En Christ, nous sommes porteurs d'une lumière qui ne vient pas de ce monde. C'est incroyable. Je sais pas si quand le matin vous réveillez, vous réalisez que, en fait, Jésus habite en vous, Jésus habite en moi, et c'est une lumière que personne ne pourra éteindre. Pourquoi? Parce qu'elle est d'une nature différente de ceux qui habitent dans ce monde. Mais que se passera-t-il si les chrétiens se font contaminer par les ténèbres? On a tous fait l'expérience, une fois ou l'autre, on est à la maison, tranquillement, on a allumé le four à crêpes ou le réchaud pour la raclette, et puis paf, les fusils, puis ils sautent. Bien sûr, c'est le soir, c'est la nuit, il y a tout qui est plongé dans les ténèbres. Qu'est-ce qui se passe? Bah, on court à la cave, on va remettre les fusibles, la lumière revient. Mais il arrive parfois que la lumière baisse petit à petit. On est dans le salon, c'est l'après-midi, puis le temps passe et le soleil est en train de se coucher, et puis d'un coup, on n'arrive plus à lire son livre. Et je crois qu'aujourd'hui, on est plutôt dans cette situation où, en fait, le mal est allé rampant, petit à petit, en toute discrétion. Et tout d'un coup, on est en train de se retourner, et puis on se dit, mais on n'arrive plus à lire. Et c'est le moment de rallumer la lumière, c'est le moment de se réveiller. Vous savez, c'est un peu l'histoire de la grenouille. Alors, il paraît que c'est une fable, je n'ai pas fait l'expérience, mais il paraît que quand, c'est ce que dit la fable, hein, quand on met une grenouille dans de l'eau bouillante, elle saute hors de la casserole. Alors que si on la plonge dans de l'eau froide et qu'on allume, petit à petit, la température, elle meurt. Et je crois que c'est le risque qu'il y a aujourd'hui. C'est qu'en fait, petit à petit, le mal va en grandissant et vient étouffer petit à petit notre foi. Et ce n'est pas la première fois que le mal essaye d'étouffer les chrétiens. La Bible est remplie d'avertissements en ce sens-là. Et je vous propose qu'on continue notre lecture en 2 Pierre, verset 17 et suivant. 2 Pierre, verset 17 et suivant. Chapitre 2. 2 Pierre 2, oui, c'est que comme j'avais déjà dit le 2, je me suis dit, mais il n'y a pas besoin de le répéter encore une fois. 2 Pierre 2, verset 17 et suivant. Ces gens-là sont des sources sans eau. Donc ces gens-là, c'est les faux enseignants dont il est question avant. Et il y a quand même un petit doute qui existe, si c'est les faux enseignants ou si c'est les méchants. Mais vous allez voir certainement que les avertissements sont en fait bien plus larges que simplement par rapport à un groupe de personnes. Ces gens-là sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche, ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivant dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice, plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes, « Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie à peine lavée s'est vautrée dans le bourbier. » De nouveau, des avertissements. Auparavant, il avait vraiment mis l'accent sur les faux enseignants en donnant tout un tas de caractéristiques, en mettant en garde contre la cupidité, contre le désordre sexuel. Et là, il continue et il qualifie ces personnes de fontaines sans eau, de nuées qui chassent un tourbillon. Ça, c'est la traduction seconde, mais ici, c'est des gens qui sont poussés par la tempête. Ils sont esclaves de la corruption. Et leur but, c'est avec des discours enflés d'orgueil, avec des promesses de liberté, d'égarer ceux qui croient en Jésus-Christ. Quelle est leur destinée? Leur destinée, c'est les ténèbres. Lorsque je discute avec les uns et avec les autres, je suis effaré aujourd'hui par un mal qui est en train de frapper notre société. C'est la perte du sens, et notamment la perte du sens de travail. On a l'impression que la vie n'a plus de sens et que les gens sont en train de courir pour essayer de trouver un sens à leur vie. Que dit Pierre? Ce sont des fontaines sans eau. Qu'est-ce qui n'a pas de sens? Eh bien, c'est une fontaine qui ne donne pas d'eau. On ne parle pas de la période d'hiver où on coupe le robinet pour éviter le gel. On parle d'une fontaine qui devrait donner de l'eau et qui n'en a pas. Des nuées qui chassent un tourbillon, hein, du vent qui poursuit du vent. Comment est-ce que des gens qui sont qualifiés comme ça pourraient donner un but à la vie de quelqu'un? Et nous avons de la chance, c'est que notre vie a un sens. C'est extraordinaire. Elle a un sens parce que nous avons une destinée, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, qu'il est bon de s'en rappeler et qu'il est bon de dire à tous ceux qui sont en train de chercher un sens dans leur vie. Avoir Christ comme destinée, cela change tout. Notre monde fait de belles promesses. Notre société fait de belles promesses et ce depuis le plus jeune âge. Tu auras une belle vie. Tu seras heureux. Tu auras un travail intéressant, pas trop fatigant. Tu ne manqueras de rien. Tu auras la santé. Est-ce que notre société tient ses promesses? On réduit souvent le travail intéressant à un travail pour lequel on perçoit immédiatement le sens. Et là, j'ai vraiment une mauvaise nouvelle. Dans une société de haute technologie, la plupart des travaux seront du travail où on ne perçoit pas un sens direct. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? Au début de la journée, certainement que votre réveil, probablement votre smartphone, a sonné et que vous l'avez éteint. Combien d'heures de travail ont été nécessaires à sa réalisation? Est-ce que la personne qui était en train de creuser le sol pour en extraire les minerais était en train de se réjouir en chantant « Mais mon travail a du sens parce que Xavier pourra se réveiller pour aller au culte dimanche matin. Quelle joie !» Et puis, nous avons été jusqu'à la machine à café et nous avons coulé un bon café. Est-ce que la personne dans son camion qui était en train de livrer les cafés jusqu'au magasin est en train de se dire « Génial, grâce à moi, Xavier va passer une bonne journée parce qu'il aura eu un bon café le matin. Et puis, ensuite, on est venu jusqu'ici à l'église. Est-ce que l'ouvrier qui a fait la route s'est dit, mais génial, Xavier va pouvoir aller à l'église, il n'y aura pas de mille-poule et il va arriver à l'heure à l'église. Et puis, Xavier est monté dans une voiture. Vous imaginez tout le travail qui a été nécessaire pour cela. Et en fait, il y aura seulement une minorité de personnes qui vont voir le sens direct de leur travail. Et ce que je dis là pour venir à l'église le dimanche matin est vrai pour la plupart de nos activités. En fait, il y a juste une minorité de personnes qui vont voir un sens direct à leur travail. Donc bien sûr que si on imagine que notre travail doit avoir un sens immédiat dans l'heure qui suit, dans la journée qui suit ou même dans le mois qui suit, ben la plupart des gens autour de nous vont être désespérés. Mais nous avons un objectif, connaître Jésus. Nous le connaissons déjà et nous nous retrouverons un jour face à lui. Et en attendant, nous avons une mission, faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Où que nous allions, Dieu a prévu de bonnes œuvres pour que nous puissions les accomplir. Et ça va de gestes tout simples, sourire à une grand-maman dans la rue, avoir une parole d'encouragement pour un collègue qui vient de se faire descendre par le chef, rendre service, aider quelqu'un qui est souffrant, parler de Jésus, et surtout, surtout une mission que Dieu nous confie, être reconnaissant. Et ça, ça change tout. Parce que quand on est reconnaissant envers Jésus, je crois que Dieu déverse encore avec plus d'abondance le Saint-Esprit dans nos vies. Reconnaissants, soyons reconnaissants parce que notre vie a un sens et que ce sens ne dépend pas de notre travail, ne dépend pas de notre réussite, ne dépend pas de notre famille, mais de celui vers qui on a les yeux tournés, Jésus. Et Dieu place sur notre route de nombreux signes pour nous encourager. Est-ce que nous arrivons à les reconnaître ? Quand j'ai préparé cette prédication, j'avais une prime verte devant moi. Je pensais qu'il y en aurait ici. Ce sera pour la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué les primes verts. Oh, c'est banal comme fleur, on en voit partout. Mais si on s'approche, on voit 5 cœurs qui nous rappellent que Dieu nous aime. Le Créateur pense à toi. Et il met des signes sur ton chemin pour te dire, je t'aime, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Tu es une créature merveilleuse. Pourquoi est-ce qu'il a fait des primes verts puis des cœurs sur les primes verts, si ce n'est pour le plaisir de nos yeux? Ou est-ce qu'on est tellement préoccupé par la dispute des chefs d'État sur lesquels on n'a absolument aucun impact qu'on n'arrive même plus à voir ce que Dieu met sur notre chemin pour réjouir notre cœur? Et que dire des personnes qui nous entourent? Si une prime verte est magnifique, est-ce que nous sommes suffisamment attentifs pour discerner en l'image de Dieu qui se trouve en face de nous quelles sont les qualités qu'il y a placé, quelles sont les beautés qu'il a mis dans celui qui se trouve en face de nous. Et si nous les percevons, n'avons-nous pas le devoir de leur parler de Jésus? Parce que ce serait tellement terrible si ces personnes finissaient piétinées comme les primes verts. Alors oui, notre vie a un sens, parce que Christ est notre destinée. Et quand on parle de Jésus, eh bien, un des arguments qui vient régulièrement, c'est celui de la liberté. C'est d'ailleurs une des choses que les faux enseignants font pour essayer de détourner les chrétiens de Jésus. Et ça marche. Vraiment, je pense que quand on regarde dans les décennies qui nous ont précédés, ça marche. L'argument de la liberté détourne les gens de Dieu. Je pense qu'on a toujours tous entendu ces arguments. La foi chrétienne, et particulièrement la foi évangélique, est trop restrictive et nous prive de liberté. D'ailleurs, j'ai entendu un pasteur qui disait que toutes les religions se valent parce que finalement, ce sont différents chemins pour arriver en haut de la montagne. Car l'œuvre de Jésus est tellement grande que toute l'humanité sera sauvée. Il y a simplement ceux qui sauront pourquoi ils ont été sauvés et ceux qui se retrouveront sauvés sans le savoir. Et puis, tous ces trucs moralistes, ah, vous savez, il paraît que ça ne vient pas vraiment de la Bible. Vous n'avez jamais entendu, ce n'est pas mon discours, hein, c'est l'argument que j'ai entendu, que je vous rapporte. Et on remarque dans ces arguments qui sont là, qui ont l'air tout à fait naturels, qu'en fait le discours des faux enseignants a du poids et finalement va descendre dans le cœur des gens et va titiller certaines choses qui sont préexistantes dans le cœur des gens. Parce que quand on m'adresse cette réponse, je crois qu'il y a des gens qui sont tout à fait de bonne foi. Mais j'ai le privilège de pouvoir partager l'évangile avec certaines personnes depuis déjà un certain nombre d'années. Alors j'espère qu'un jour ça portera du fruit, je prie pour cela. Et avec le temps, j'ai l'impression que ces arguments ne sont pas forcément quelque chose qui les ont convaincus. Mais que finalement, peut-être, c'est mon interprétation à moi, je ne dis pas que c'est ce qu'ils vivent, hein. Peut-être que je suis beaucoup trop coincé et fermé et puis que j'ai un regard complètement tordu sur eux. Mais j'ai l'impression que ces arguments leur permettent en fait de laisser libre cours à certains désirs qui sont dans leur cœur. Parce que dans une société qui définit comme dogme que chacun définit son identité, alors on devrait laisser libre cours à toutes les pulsions qui nous habitent. Mais il faut le dire, il y a des choses qui habitent au profond de nous et qui ne sont pas bonnes, qui sont destructrices. En tant qu'être humain, nous sommes appelés à les maîtriser. Et quand on regarde la différence entre un homme et un animal, une des différences, c'est que l'homme peut maîtriser ses pulsions, peut maîtriser ses instincts et parfois jusqu'à la mort. C'est une chose absolument incroyable. Et c'est ça la vraie liberté. C'est pas de faire tout ce qui nous passe par l'esprit, mais c'est de pouvoir résister au mal. Le problème, c'est que résister au mal, ça semble absolument impossible. Imaginons un instant que ce n'est pas nous qui construisons notre identité, mais qu'elle nous est donnée par Dieu. Paf, renversement de perspective. Au lieu d'expérimenter les différents styles de vie pour savoir ce qui nous correspond, on s'approche de Dieu et on lui demande qu'est-ce qu'il a prévu pour nous. Et en s'approchant de Dieu, en apprenant à le connaître, eh bien on commence à comprendre qui on est. Mais oui, c'est cela être image de Dieu. C'est pouvoir refléter le Créateur. Et comment allons-nous pouvoir le refléter sans s'approcher de lui? Et si on commence à le refléter, bien sûr que nos aspirations les plus profondes seront comblées. Dans Colossiens 1, verset 15, il dit que le Fils de Dieu est l'image du Dieu invisible, que Jésus est l'image du Dieu invisible. Et dans une perspective identitaire, mais c'est juste extraordinaire, parce que nous, on est toujours repris par ce qu'on n'arrive pas à faire, par le mal, par nos péchés, par nos frustrations. On n'arrive pas à être l'image du bien. On a tous un petit truc qui nous titille, petit ou grand. Mais lui, le Christ, il a réussi à être l'image parfaite de Dieu. C'est précisément ce que nous sommes appelés à être. Et heureusement, il est venu. Il est venu pour que nous puissions le connaître. Et en le connaissant, petit à petit, cette image de Dieu qui a été brisée, qui est toujours là, mais qui a besoin d'être restaurée, eh bien, elle est justement reconstruite. Connaître Jésus, c'est se connaître soi-même, connaître sa valeur, être libéré du mal. Déclarer juste, non pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que celui qui habite en nous est le meilleur. Parce que Jésus est le plus fort, le plus beau. Et je vais vous dire quelque chose absolument extraordinaire, que parfois on oublie, qu'on n'ose pas dire trop fort, de peur qu'on dise qu'on est perché. Quand on s'intéresse à Jésus, quand on s'approche de lui, quand on place notre confiance en lui, il envoie son Saint-Esprit habiter en nous. Et par son esprit, il nous unit à son œuvre. Par son esprit, la mort qu'il a vécue il y a 2000 ans, et pas seulement dans le passé, elle devient présente. Non pas pour que nous arrêtions de vivre, mais pour que le mal qui est en nous arrête de vivre. Et que la vie qu'il a acquise par sa résurrection devienne notre vie. Et ça, il le fait parce qu'il envoie son Saint-Esprit. Et il ne se contente pas de ça. Mais devant la vie de chacun d'entre nous, de chacun de vous, de toi, de moi, Dieu de toute éternité a préparé des bonnes œuvres pour que nous y entrons. La foi donne un sens à notre vie parce que nous avons un but, connaître le Christ, et nous avons une origine. Dieu nous a créés et nous a restaurés en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, lorsqu'on y réfléchit, est-ce que toutes ces choses qui sont contraires au bien, toutes ces choses qui sont immorales, est-ce que ça a jamais apporté la liberté à quelqu'un ? Prenons un peu de recul, regardons les exemples des uns et des autres qui nous entourent. Les choses immorales n'ont jamais apporté aucune liberté. Ce qui nous guette aujourd'hui, je crois, c'est l'assoupissement, comme dans l'histoire de la grenouille. La température monte. Dans notre cas, il y a peut-être effectivement de la température qui est en train de monter, et qui a un réel danger, mais ce qui est encore plus grave, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Or, on se dit des fois qu'on est tranquille en Suisse, qu'on est dans un pays libre, où on peut faire ce qu'on veut au niveau de la foi. Mais encore récemment, un chrétien est venu de l'étranger et a dit « Mais est-ce que vraiment vous êtes si libre que ça en Suisse ?» Et je ne suis pas sûr que, aujourd'hui, des chrétiens qui viendraient de l'étranger avec une totale liberté et qui verraient qu'on ne peut pas annoncer l'évangile comme on veut, qu'on ne peut pas se faire baptiser dans le lac, que si on prie sur son lieu de travail, on a des problèmes. Est-ce que vraiment on est encore libre de vivre notre foi comme on le veut ? Que quand on dit qu'on est chrétien, on nous dit « Mais écoute, ça c'est une histoire privée. » Surtout pas dans l'espace public. Mais non, la foi est une affaire publique, c'est une affaire de société. Est-ce que vraiment, si quelqu'un arrivait aujourd'hui d'un contexte totalement différent, il dirait « Quel pays merveilleux la Suisse, nous sommes totalement libres ». Ou est-ce que finalement, la température est arrivée à un point suffisamment élevé pour que quand on tombe dedans, on se dit « Aïe, ça fait mal ». Et je pense que la situation n'est clairement pas encore catastrophique quand on regarde à d'autres pays. Profitons-en pour vivre notre foi, pour nous réunir, pour prier ensemble, pour louer Dieu les fenêtres ouvertes. Profitons-en pour parler de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Jésus à notre voisin, à notre frère, à nos parents, le plus grand risque qu'on a, c'est qu'on les froisse un petit peu. C'est peut-être qu'on ait 2-3 difficultés au travail, mais on ne risque pas grand-chose. Mais est-ce que ce sera vrai encore dans une année, dans 10 ans, dans 15 ans? Alors n'attendons pas que ce soit trop tard. Disons-le maintenant que nous avons de la liberté. Et vous savez, un temps vient où les réactions seront beaucoup plus fortes. On en a les prémices. Satan a œuvré de façon cachée pendant des décennies en Suisse. Et aujourd'hui, on voit les choses qui arrivent à la lumière. Les gens n'ont pas honte de dire qu'ils vont voir un chaman, qu'ils sont allés chez un rebouteux. Mais jamais ils vont aller dans une église. Enfin, jamais. J'exagère, hein, sinon on ne serait pas là. Ce qui s'est fait discrètement, ces dernières années, il y a des choses beaucoup plus fortes qui vont venir dans l'action de Satan, ici en Suisse. Alors, réveillons-nous. Continuons à être réveillés si on l'est. Continuons la lutte. L'enjeu, c'est notre vie éternelle. Quand on lit la fin du passage, on a l'impression qu'on pourrait perdre son salut. De Pierre 2, verset 20. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elles, leur dernière condition est pire que la première. Alors j'aimerais dire 2 choses. La première, c'est que vraiment, on peut avoir une assurance de notre salut. Je lis en Jean 10, versets 28 et 29. Je leur donne la vie éternelle, c'est Jésus qui parle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. On peut être absolument sûr que quand on adhère à Jésus-Christ, jamais il ne nous laissera tomber. Et d'ailleurs, au chapitre précédent, Pierre dit ceci: « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » C'est 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. Donc, il y a d'un côté cette élection, le fait de ne jamais broncher, et là, on a l'impression qu'on pourrait perdre son salut. Alors, le fait qu'il y ait l'élection me semble dire qu'il est impossible de perdre son salut. Le fait que Jésus nous tienne dans sa main est tellement puissante, me fait dire que c'est impossible de perdre son salut. Mais, il peut arriver deux choses. Il peut arriver. Nous savons que dans l'Église, il y a des chrétiens qui sont vraiment nés de nouveau et des gens qui font semblant d'être des chrétiens. Pas dans la nôtre, hein, bien sûr, dans les autres. Et quand Pierre met en garde, il dit, mais il pourra arriver que des gens parmi vous se fassent séduire au point de retourner d'où ils viennent, de retourner à leur vomi. Première chose. Et deuxième chose, même si je suis absolument certain que Dieu me tient dans sa main, jamais je ne prendrai le risque de me détourner de lui. Ben, je me dis, mais si jamais il était éventuellement possible, ce que je ne crois pas du tout, de perdre son salut, il ne vaut même pas essayer de mettre un pied sur cette pente glissante. Et si Pierre nous avertit, c'est qu'il y a un risque qui est vraiment là devant chaque chrétien et que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber. Alors, gardons-nous de ça, soyons vraiment très prudents et confiants que Jésus nous sauve. Pour conclure, Pierre dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 2 Pierre 2. Verset 19, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et c'est peut-être ce dont nous sommes appelés à nous souvenir ce matin. Est-ce que j'accepte que Christ triomphe de moi? Suis-je disposé à être l'esclave de Jésus? Ça ne fait pas très envie comme ça. Mais si on n'accepte pas cette option, quelle est l'autre option? La corruption? La convoitise? Le mal, les mauvais désirs, la cupidité. Est-ce que c'est ces choses-là que je vais laisser triompher? Ou est-ce que, au contraire, je vais laisser Christ triompher de moi? Et j'aime bien cette idée de laisser Christ triompher de moi. Ça veut dire qu'il y a une mise à mort qu'on doit demander à Christ. Cette mise à mort dont on parlait à l'instant, où nous avons besoin que le Saint-Esprit nous unisse à Christ. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Pierre se décrit au chapitre 1, verset 1. Pierre, esclave de Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit dans beaucoup de ses lettres. Paul, esclave de Jésus-Christ. Des fois, on le traduit serviteur, hein, ça va aussi, mais esclave. Ou en Romains 6, les versets 20 à 23. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'écart de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et la vie éternelle. Extraordinaire, n'est-ce pas? La sainteté et la vie éternelle comme fruit. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Laissons-nous vaincre par le Christ et nous verrons que la vie est belle, qu'elle est pleine de sens et que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Alors c'est une magnifique conclusion. Je pourrais terminer là, mais n'oublions pas qu'il y a une guerre qui fait rage et que nous sommes appelés à y prendre part en proclamant Jésus. Ne nous laissons pas endormir par la séduction qui sévit dans le monde. Ne nous laissons pas impressionner par la violence qui fait rage. Annonçons le Christ, mort pour nos péchés et couronne sur nos têtes. Ne cessons pas notre lutte jusqu'à ce que la guerre soit remportée par Jésus. Et j'ai un secret à vous dire. Il y a des infiltrés dans le camp de l'ennemi. Il y a des infiltrés. Dieu peut se servir de n'importe qui. Et on le voit des fois, d'un coup, un grand chef d'État dit « Mais Jésus-Christ est le Seigneur » ou « Jésus-Christ est plus grand que moi ». Même Caïphe a dit, qui a mis à mort Jésus, il a dit « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le salut du peuple ». Et c'est notre conviction. Christ est mort pour notre salut.